aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Les pays du G5 Sahel et la France demandent l'envoi dès que possible de 500 soldats tchadiens dans la région dite des trois frontières. Les rebelles hutus rwandais nient toute implication dans la mort vendredi de 17 personnes dans le parc des Virunga en RDC. Pandémie de coronavirus, certains pays veulent assouplir les mesures de confinement et d'autres ont décidé de les prolonger. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est accusé d'avoir acheté en 2017 sa résidence d'Abidjan avec des fonds publics. Monsieur Soro, qui vit en France, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, la confiscation de sa maison et la privation de droits civiques pour 5 ans. Un nouveau mandat d'arrêt a été émis à son encontre et sauf appel fructueux, monsieur Soro est interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre. La France et les pays du G5 Sahel demandent l'envoi dès que possible de 500 soldats tchadiens dans la région dite des trois frontières, en proie à de fréquentes attaques djihadistes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Mali, du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie, ainsi que leurs homologues français, réunis en visioconférence, ont souligné l'importance de l'envoi dès que possible d'un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières, selon une déclaration conjointe publiée à Paris. Le président tchadien Idriss Déby a mis la pression sur ses partenaires le 10 avril en annonçant que son armée allait cesser de participer à des opérations hors des frontières tchadiennes. Une semaine plus tard, la ministre française des Armées, Florence Parly, a assuré que le Tchad restait engagé dans le G5 Sahel. Le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel avaient affirmé en janvier à Pau, en France, leur volonté d'accentuer leurs efforts militaires sur la région des trois frontières. Ils s'étaient également engagés à renforcer la coopération de leurs armées sur le terrain.
Au Tchad, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui l'abolition de la peine de mort à l'unanimité. Pour entrer en vigueur, la mesure doit encore être promulguée par le président Idriss Déby Itno. En 2016, le Tchad avait adopté une réforme du code pénal abrogeant la peine de mort, sauf pour fait de terrorisme. Les rebelles hutus rwandais opérant dans l'est de la République démocratique du Congo ont nié toute responsabilité dans l'embuscade qui a fait 17 morts, dont 12 rangers, du parc national des Virunga vendredi. Ils accusent le régime de Kigali d'avoir orchestré l'attaque. Nathalie Barge.
La direction du parc national des Virunga avait accusé le groupe armé FDLR Foka d'être l'auteur de cette tuerie près du QG de la réserve au nord de Goma. Dans un communiqué, les rebelles Hutus condamnent cette attaque et disent ne rien avoir avec ces forfaits. Ils affirment que le territoire de Rutshuru est sous contrôle des militaires rwandais. Le président rwandais Paul Kagame a affirmé lundi en conférence de presse que son pays n'a déployé aucun soldat en RDC pour lutter contre des groupes rebelles. Le chef des FDLR, Sylvestre Mudakumura, a été tué dans le Nord Kivu en septembre dernier, selon les autorités congolaises, qui avait été félicité par le pouvoir de Kigali.
L'Afrique totalise 1466 décès dus au coronavirus sur plus de 33 000 cas recensés. Certains pays veulent assouplir les mesures de confinement, tandis que d'autres ont décidé de les prolonger. Plus de détails avec Nanit Talani.
La présidence ivoirienne indique que la zone UEMOA a enregistré 3200 cas confirmés et 105 décès. Les 8 pays de l'UEMOA ont décidé de suspendre leur pacte de convergence lors d'un sommet extraordinaire. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de commerçants ont manifesté hier à Ouagadougou pour demander la réouverture de tous les marchés fermés depuis fin mars. Le grand marché de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso ont rouvert le 20 avril. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé hier un déconfinement progressif à partir du 4 mai. Les mesures de confinement seront aussi assouplies à Libreville au Gabon. Au Botswana, par contre, le président Mokgweetsi Masisi prolonge les mesures de confinement jusqu'au 7 mai. En Afrique du Sud, le pays le plus touché, les médecins craignent que la reprise partielle des activités le 1er mai ne fasse remonter la courbe de la maladie.
Un malade a été testé positif au Covid-19 à la prison centrale de Conakry. Le 24 avril, le ministère guinéen de la justice avait fait état de 3 cas de décès jugés suspects à la prison centrale et décrété l'interdiction provisoire de toute visite, à l'exception de celle des avocats, des médecins et des personnes transportant des repas. Le pays compte officiellement près de 1200 cas de Covid-19 et 7 décès. En Sierra Leone voisine, un détenu a été testé positif. L'homme avait comparu le 17 avril devant un juge avant d'être placé en détention à Freetown. Tombé malade 3 jours plus tard, il a reconnu s'être échappé d'un centre de quarantaine. Les autorités ont fermé la section de la prison où il était passé afin de la désinfecter. Les autres détenus ont été placés et mis sous surveillance sanitaire. La Sierra Leone a dénombré 99 cas et 4 décès. Les autorités de la province du Haut-Katanga ont annoncé le confinement d'une journée mardi pour Lubumbashi et mercredi pour la ville frontière de Kazumbalesa dans le bassin minier du sud-est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis s'inquiètent. La propagation du nouveau coronavirus risque de dévaster des pays d'Afrique de l'Est où l'insécurité alimentaire pourrait plus que doubler en seulement 3 mois. Le PAM estime qu'environ 20 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire actuellement dans 9 pays de la région, dont notamment le Burundi, Djibouti et le Rwanda. Le président Abdel Fattah al-Sissi a renouvelé aujourd'hui l'état d'urgence en Égypte pour 3 mois en raison de la situation sécuritaire et sanitaire critique dans le pays. Instauré en avril 2017 à la suite d'attentats meurtriers revendiqués par le groupe djihadiste État islamique contre des églises coptes, l'état d'urgence a été en vigueur 3 ans sans discontinuer. En Libye, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a dénoncé un énième coup d'État du maréchal Khalifa Haftar au lendemain de la proclamation par l'homme fort de l'Est qu'il disposait d'un mandat du peuple pour gouverner seul le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 212 000 morts dans le monde pour plus de 3 058 000 cas depuis son apparition en Chine en décembre. Un point sur les dernières évolutions avec Eric Manirakiza.
Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts devant l'Italie, l'Espagne et la France. En Angleterre, plus de 4 000 personnes sont mortes du coronavirus en 2 semaines dans les maisons de retraite. Des signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent en Allemagne, beaucoup moins touchée au départ que la plupart des autres pays et qui vient juste de débuter son déconfinement. La France et l'Espagne présentent ce mardi leur plan de déconfinement progressif. La Chine dénonce des mensonges éhontés des États-Unis après des propos du président Donald Trump qui n'a pas exclu de réclamer des dédommagements à Pékin pour l'épidémie de coronavirus. L'Australie a commencé à assouplir les mesures contre le coronavirus. Des centaines de surfeurs et de baigneurs se sont rués sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney 5 semaines après sa fermeture. Selon l'Institut britannique London School of Hygiene and Tropical Medicine, il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19, dont une dizaine en phase d'essai clinique.
Au Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, avec plus de 21 000 morts, les services de santé développent leurs propres applications de traçage des contacts pour le déconfinement. Ils espèrent que l'application sera opérationnelle dans 3 semaines. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que les écoles rouvriront très progressivement sur la base du volontariat à partir du 11 mai pour les maternelles et primaires, du 18 mai pour les collèges, où le port du masque deviendra obligatoire. Les ouvertures se feront uniquement dans les départements peu touchés par la maladie. Les commerces, sauf les cafés et restaurants, pourront rouvrir à compter du 11 mai avec des mesures de protection sanitaire. Les cinémas, théâtres et grands musées resteront fermés. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Congo recevra une aide d'environ 6,8 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus. Un plan de riposte permettra de renforcer la sensibilisation, le dépistage, la prévention et la prise en charge efficace des malades du COVID-19. Ces fonds permettront aussi aux autorités de Brazzaville de mieux répondre aux urgences de santé publique et de renforcer la surveillance épidémiologique. Au Gabon, les éco-gardes menacent de suspendre leurs activités pour n'avoir pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois, révèle Gabon Media Time. Ils s'insurgent aussi, entre autres, contre l'absence de statut et d'un plan de carrière, la baisse de leur salaire de base, le non-versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, le caractère dérisoire de la prime d'astreinte ou encore l'inexistence de la prime de risque, alors qu'ils travaillent dans un environnement qui peut être hostile. Pour terminer, au Maroc, environ 57% des sociétés recensées ont arrêté définitivement ou temporairement leurs activités. La moitié de celles qui travaillent encore ont réduit leur production et quelques 800 000 employés se retrouvent au chômage. Pour les aider, le gouvernement compte offrir à 9 000 PME des facilités fiscales et des prêts exceptionnels. Les travailleurs précaires et les chômeurs recevront aussi une aide mensuelle.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. Avec cette période de crise sanitaire imposée par le coronavirus, la FIBA Monde, l'instance dirigeante mondiale du basketball, organise une formation en ligne pour 25 entraîneurs et 25 arbitres. Les formations démarreront au mois de mai et dureront chacune 2 semaines. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako au Mali, nous en parle.
La formation des entraîneurs débutera le 11 mai 2020 et ce sont les entraîneurs de niveau 1 qui sont concernés. Autrement dit, ceux qui s'occupent des joueurs débutants. Quant à celle des arbitres, ce sera le 18 mai 2020. À propos de cette formation, il s'agira des jeunes arbitres fédéraux qui se préparent à passer les grades d'arbitre international. Pour chacune des deux formations, les femmes sont prioritaires. Des formations qui viennent à point nommé car elles s'inscrivent en droite ligne du plan de développement du basketball au Mali, selon le président de la Fédération malienne de basketball. Haruna B. Maïga a indiqué qu'il est prévu en cette année 2020 4 formations pour les entraîneurs et 2 pour les arbitres. Donc une aubaine pour le Mali, surtout en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus qui impose des mesures restrictives. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Toujours en basketball, ici aux États-Unis, la NBA a repoussé la réouverture des centres d'entraînement au 8 mai au plus tôt. La Ligue nord-américaine de basketball avait pourtant annoncé lundi qu'elle comptait autoriser la réouverture des centres d'entraînement des franchises ce vendredi 1er mai pour des séances de travail individuelles des joueurs pour les zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettent. D'après le mémo de la NBA envoyé aux franchises et relayé sur son site Internet, l'accès aux installations sera limité à 4 joueurs à la fois et aucun entraîneur ne sera autorisé à participer aux séances. L'instance rappelle en outre que les entraînements et rassemblements de groupes restent interdits et que les joueurs n'ont toujours pas le droit de se rendre dans des installations n'appartenant pas à leur franchise, telles que les gymnases. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, rappelle qu'une décision sur la reprise de la saison suspendue depuis le 11 mars n'interviendra pas avant le mois de mai. En athlétisme, pour finir, la Fédération internationale d'athlétisme annonce le lancement d'un fonds de $500 000 pour aider les athlètes professionnels qui connaissent des difficultés financières en raison du coronavirus. Cette initiative est menée en partenariat avec la Fondation internationale d'athlétisme qui soutient des causes caritatives liées à l'athlétisme. Un groupe de travail présidé par Sébastien Coué, le patron de la Fédération internationale, est chargé d'évaluer les demandes d'aide émises par les 6 associations continentales. Le plan de distribution des subventions aux athlètes sera établi cette semaine.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, ce verdict, l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 7 ans. Le tribunal correctionnel du plateau l'a reconnu coupable de recettes de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 7 ans. Pour plus de précisions, Bagassi Koura a joint Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
L'année dernière, vous savez qu'il était poursuivi depuis un mandat d'arrêt avait été lancé depuis décembre 2019 et je pense que c'est la suite de cette procédure.
Alors on dit que ces détournements concernent notamment une de ses résidences à Abidjan.
Effectivement, un résident qui aurait acquis un vrai gratuit pour la famille nationale de l'Ukraine. Région, M. Laurent Gbagbo. Bon, il s'est retrouvé que l'accès, l'acquisition n'a pas été faite selon les règles de l'art et qu'il aurait même été rendu un bien personnel en tant que président de l'Assemblée nationale ivoirienne.
Alors, Soro a été jugé par contumace, c'est-à-dire à son absence. Qui d'autre était là-bas au tribunal? Est-ce que ses avocats étaient là-bas?
Non, les avocats ont écouté les auteurs. Surtout, là, tu dois dire qu'il avait été interrogé par un site d'information ivoirien, allait été entendre que dans tous les cas, il n'aurait pas accepté, il n'a pas reçu d'invitation, mais que dans tous les cas, il n'aurait pas accepté d'intervenir pour défendre auprès de leur président qui n'est pas présent. Parce que dans une telle affaire, selon tes dires, il a recommandé la présence de la personne qui est poursuivie. Et selon qu'il était présent, et de constat être là pour le défendre correctement. Donc, ce Guillaume n'a pas été défendu.
Et dans le verdict aussi, on voit qu'il perd ses droits civiques. Est-ce que vous pensez que cela va envenimer la tension politique?
Bon, une condamnation de ce genre a toujours des conséquences négatives sur la paix et le climat social, étant donné que la presse Guillaume Soro était un personnage politique qui a déjà fait. Étalage de présentation d'aller à la présidentielle, ce qui est sûr, ce n'est pas une petite affaire, et il aurait été intéressant de faire l'économie de cette autre affaire. Mais dans tous les cas, c'est une procédure judiciaire qui a été suivie par la juridiction ivoirienne en bonne et due forme selon les avocats de l'État.
Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Nigeria a bénéficié d'un soutien du gouvernement américain dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'aide américaine d'une valeur de 21,4 millions de dollars a été saluée par Abuja comme le signe de la vitalité des relations entre les deux pays. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le financement du gouvernement américain soutiendra des activités essentielles pour contrôler la propagation du Covid-19, telles que des campagnes rapides d'information sur la santé publique, l'eau et l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé. L'Agence américaine pour le développement USAID soutient le Centre national des contrôles des maladies du Nigeria en envoyant 1 million de SMS par jour aux Nigériens. L'organe finance aussi les activités de sensibilisation en faisant le porte-à-porte dans le nord-est pour prévenir les épidémies dans les zones les plus vulnérables du pays. Awal Moussa Rafsanjani est un activiste nigérien. Il est clair que cette assistance, c'est pour alléger la souffrance des Nigériens en cette période du Covid-19. Nous voulons demander au gouvernement américain d'assurer la transparence comme prévu dans l'accord.
Si beaucoup de Nigériens saluent les efforts du gouvernement américain pour son assistance en cette période de crise sanitaire, ils s'inquiètent de la gestion des fonds par les autorités nigériennes. Deji Adeyanzu dirige un groupe de Nigériens de la société civile. Donner de l'argent à l'actuel gouvernement, c'est comme si vous mettez de l'eau dans une bassine qui coule, parce que ce gouvernement ne connaît pas la transparence. Ce gouvernement affirme avoir distribué 20 000 naira à plus de 2 millions de Nigériens sans aucune forme de documentation. Donc le gouvernement américain devrait directement diriger l'aide aux pauvres. Des millions de Nigériens vivent aux États-Unis et des liens entre les États touchent plusieurs secteurs de développement, comme celui de la science et de la technologie. Mais pour l'opposant Youssouf Yabagi Sani du ADP, le gouvernement américain devait faire plus. Pour moi, c'est réellement petit. Si vous considérez que le Nigeria est la première puissance économique en Afrique, c'est aussi un État clé. Parce que, quelle que soit la façon que vous pensez, les pays comme l'Amérique a besoin du Nigeria pour être fort. Et c'est aussi le moment, puisque tout le monde sait que cette pandémie est une menace pour les économies comme celle du Nigeria. Cette assistance vient s'ajouter à plus de 8,1 milliards de dollars d'aide totale au Nigeria au cours des 20 dernières années, notamment plus de 5,2 milliards de dollars en assistance sanitaire aux États-Unis uniquement. L'économie nigériane, très dépendante du pétrole, est fortement affectée ces derniers mois avec la chute du baril de l'or noir à des niveaux jamais atteints sur le marché mondial. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur l'ordre économique et diplomatique mondial. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux économies des pays les plus riches et fragiliser davantage celles des pays en développement. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi 30 avril 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Mali, le personnel du principal hôpital de la ville de Kaï, situé dans l'ouest, appelle à l'aide. Malgré la présence des forces de l'ordre, des manifestants se sont regroupés hier pour dénoncer le manque de moyens et de matériel adéquat pour mener la lutte contre la pandémie de Covid-19 et surtout protéger le personnel soignant. Arzouma Compaoré a joint le docteur Sidi Mohamed Touré, pédiatre et secrétaire général du syndicat des médecins de l'hôpital de Kaï.
Aujourd'hui, si un malade tombe, ce serait difficile. Le Mali a été un des derniers pays à avoir des cas, donc on ne peut pas être aussi surpris que ça. Mais c'est ça la réalité. Il y a des masques qui sont là souvent qui ne sont pas adaptés. On peut le porter en ville, mais on ne peut pas le porter en face d'un cas positif. Les combinaisons qu'ils nous donnent, c'est ce qu'on voit qu'il est là, comme les cosmonautes là. Mais par exemple, un malade qui doit être contaminé par un cardiologue, un neurologue, il a besoin de tenues qui lui permettent d'être à l'aise. Les combinaisons qu'on donne, qu'on ne peut même pas mettre de stéto. Donc soit c'est des malades qu'on ne peut pas l'examiner médicalement comme ça se doit avec ces combinaisons. Il faut voir des malades, il y a au minimum 2-3 personnes qui s'habillent. Et s'ils doivent le voir 3 fois par jour ou 4 fois par jour, ça veut dire chaque fois qu'ils rentrent, ils doivent s'habiller. Donc chaque malade dans la journée, on peut utiliser 12 combinaisons. Donc il faut du matériel.
Et vous nous dites qu'au niveau de l'hôpital de Kaï, vous n'avez reçu aucune aide de la part du gouvernement depuis le début de la pandémie.
C'est aujourd'hui qu'on a appris que l'État vient d'octroyer 80 millions. C'est une commande nationale. Donc si c'est au niveau de Bamako, il faut qu'il nous envoie le matériel. Quand l'État dit qu'on est prêt, donc si l'État ne vient pas vite en aide, si on continue à utiliser le fonds de l'hôpital, donc c'est un peu ça, il faut qu'il nous trouve les moyens de se protéger pour qu'on puisse faire ce travail-là correctement. Et si les gens sont prêts à le faire, et ils sont dévoués pour ça.
C'était le docteur Touré Sidi Mohamed, pédiatre et secrétaire général du syndicat des médecins de l'hôpital de Kaï au Mali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
50,8 millions de personnes dans le monde sont déplacées dans leur propre pays en raison de conflits, autres violences et catastrophes naturelles. Un rapport du Centre de surveillance des déplacements internes du Conseil norvégien pour les réfugiés indique qu'environ 33,4 millions de personnes ont été déplacées pour la seule année 2019. Ces populations vulnérables sont exposées à la propagation du coronavirus, alerte l'ONG. Un reportage de Lisa Schlein, relaté par Nathalie Barge.
La République démocratique du Congo, la Syrie, la Colombie, le Yémen et l'Afghanistan représentent la majorité des 45,7 millions de déplacés internes. La directrice du Centre de surveillance des déplacements internes, Alexandra Bilek, souligne qu'une grande partie des déplacements de l'année dernière ont été entraînés par la violence en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que les conflits locaux en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique.
Les pays de ces régions qui ont été fortement touchés par les déplacements internes au cours des dernières années connaissent encore de nouvelles vagues de violence et subissent des déplacements chaque année, y compris en 2019.
L'un des exemples les plus dramatiques est le Burkina Faso. Le rapport indique que les conflits et la violence liés en grande partie à l'augmentation des activités terroristes ont provoqué une augmentation considérable des déplacements internes, passant de 42 000 personnes en 2018 à plus d'un demi-million l'an dernier. Il est difficile de trouver des solutions durables pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Madame Bilek note qu'il incombe au gouvernement de protéger et d'aider leurs ressortissants.
C'est pourquoi la réponse internationale dans ces contextes est plus lente et la communauté internationale est peut-être plus sensible à la souveraineté des États dans le contexte de déplacement interne que dans celui des réfugiés. Cela complique beaucoup la réponse au plan politique.
Il y a deux fois plus de déplacés internes que de réfugiés dans le monde, mais les problèmes des personnes déplacées attirent moins l'attention des médias, estime Madame Bilek. La conseillère principale du HCR sur les déplacements internes, Sumbul Rizvi, pense que c'est parce que le sort des réfugiés fuyant au-delà des frontières à la recherche de protection est plus visible que celui des personnes déplacées. Elle estime que l'attention des médias est essentielle pour mettre en lumière les besoins des personnes déracinées dans leur propre pays.
Mais aussi les causes profondes sur les raisons pour lesquelles ces situations ont pu se produire et ce qui peut être fait pour y faire face, ouvrant ainsi la voie à des solutions. Et les solutions ne peuvent pas être seulement d'ordre humanitaire. Elles doivent être politiques et liées au développement, ainsi qu'à certaines des principales causes de déplacement interne.
Les auteurs du rapport craignent que la pandémie de coronavirus ne vienne aggraver la situation et les moyens de subsistance des personnes déplacées dans leur pays. Ils rappellent que les conditions de surpeuplement et de promiscuité dans lesquelles vivent ces populations sont des foyers idéaux de transmission de la maladie mortelle.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
avec vous.